Le journal de la rédaction vous est présenté ce soir par Fanny Bouvard. Bonsoir.
Bonsoir Olivia, bonsoir à tous.
À la une de l'actualité de ce dimanche 26 juin, les dommages collatéraux du Brexit qui n'en finissent plus.
Le parti travailliste est plus divisé que jamais, les manœuvres diplomatiques se succèdent et de son côté, l'Écosse maintient la pression. Nicola Sturgeon, la première ministre, se dit maintenant prête à bloquer légalement la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Le Brexit et ses conséquences, on en reparlera à 18h10 dans notre chronique éco avec Philippe Frémaux. Et puis dans un quart d'heure, au programme de dimanche et après, Olivia Gesbert, l'après-Brexit.
Oui, du Brexit encore et toujours, vous le disiez, scénario pour une sortie de l'Union, un cas de figure totalement inédit pour les responsables européens qui vont maintenant tenter de retrouver le contrôle de la situation au risque d'un effondrement du projet européen. Invité à 18h15 de l'émission, l'eurodéputé Yannick Jadot, Guillaume Clausau, activiste pro-européen, l'ancienne vice-présidente de la Commission européenne Viviane Reding et la politologue Ulrike Guéraud.
À tout à l'heure. Et dans notre journal, nous irons aussi à Nantes, en Loire-Atlantique, où la consultation locale sur le projet de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes touche à sa fin. 1 million d'électeurs étaient appelés à se prononcer. Nous ferons le point avec Véronique Rebérotte. En Espagne, on vote pour élire un nouveau Parlement après 6 mois de blocage politique. Et à gauche, c'est la jeune formation Podemos qui pourrait prendre l'avantage. Nous le verrons avec Annabelle Grelier. L'Écosse hausse le ton une nouvelle fois après le Brexit. Interrogée ce matin sur la BBC, la première ministre écossaise Nicola Sturgeon s'est dit prête à s'opposer légalement au Brexit. Son Parlement pourrait tout simplement refuser de voter le texte formalisant la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Contrairement aux Anglais, les Écossais ont voté massivement contre le Brexit jeudi. Les explications de Catherine Dutu depuis Londres.
Le Royaume-Uni pour lequel l'Écosse a voté pour rester en 2014 n'existe plus. La déclaration de Nicola Sturgeon, première ministre d'Écosse à la BBC, est une nouvelle menace pour l'intégrité du Royaume-Uni. La chef de file du SNP, le Parti national écossais, avait déjà prévenu pendant la campagne référendaire, pas question de voir son pays sortir de l'Union européenne contre son gré. Alors maintenant que les Anglais et les Gallois ont majoritairement voté pour le Brexit, contrairement aux Écossais qui ont opté pour le maintien dans l'UE, Nicola Sturgeon abat ses cartes, première pression, un nouveau référendum sur l'indépendance, donc hautement probable dans les 2 ans, selon la première ministre écossaise, en clair, le temps que le Royaume-Uni règle son divorce d'avec les 27 pays européens. Ce ne sera pas une répétition du référendum de 2014. Le contexte et les circonstances ont complètement changé, précise Nicola Sturgeon. Il y a 2 ans, les Écossais avaient voté à 55% pour rester dans le Royaume-Uni. Mais aujourd'hui, selon plusieurs sondages réalisés après le Brexit, les Écossais seraient 52, voire 57% à voter pour l'indépendance. La première ministre écossaise déconseille également à tout futur premier ministre britannique de refuser cette nouvelle consultation, mise en garde au successeur de David Cameron, le conservateur qui a annoncé vendredi qu'il quittait le 10 Downing Street. Dernière pression exercée par Nicola Sturgeon, la première ministre écossaise enjoindra le Parlement d'Édimbourg de rejeter la motion par laquelle Londres demandera le feu vert pour le Brexit. Dans cette situation inédite, on ignore quel poids pourrait avoir l'avis du Parlement écossais comme des autres parlements nationaux du Royaume-Uni.
Catherine Dutu à Londres pour France Culture. Autre conséquence du Brexit à Londres cette fois-ci, démission en série chez les travaillistes britanniques. 7 membres du Shadow Cabinet ont annoncé ce dimanche qu'ils avaient retiré leur soutien à Jeremy Corbyn, le leader du Labour. Pour plusieurs ténors, il a sa part de responsabilité dans le résultat de jeudi. Alors, dans le même temps, les politiques européens tentent de resserrer les rangs. La France et l'Allemagne doivent prendre l'initiative pour relancer l'Union européenne. Déclaration de François Hollande ce matin. Le président de la République qui en discutera demain à Berlin avec la chancelière Angela Merkel en présence de Matteo Renzi, le premier ministre italien. De son côté, Martin Schulz, le président du Parlement européen, souhaite que la sortie du Royaume-Uni soit enclenchée le plus vite possible. Il l'a dit tout à l'heure à David Cameron, le premier ministre britannique, plutôt tenté, lui, on le sait, de laisser traîner les choses jusqu'à l'automne. France Culture, il est 17h04 et en Loire-Atlantique, la fin de la consultation locale sur le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes s'approche. Les électeurs doivent trancher, oui ou non, souhaitent-ils que le projet voie le jour. Si le non l'emporte, le Premier ministre a promis d'enterrer le projet. Dans le cas contraire, les travaux devront commencer à l'automne. À 16h, 32% des électeurs nantais s'étaient prononcés. Bonsoir Véronique Rebérotte, vous êtes à Nantes pour France Culture et pour la majorité du million d'électeurs de Loire-Atlantique appelés aux urnes aujourd'hui. Le vote est maintenant terminé.
Oui, en ce moment, les bureaux de vote des villes de Loire-Atlantique ferment, à l'exception de 3 communes dont les bureaux de vote fermeront plus tard. C'est le cas à Nantes, où l'on peut voter jusqu'à 20h. Alors, pas de chiffre officiel du tout, du taux de participation de la part de la préfecture, qui ne donnera le chiffre définitif que ce soir. En passant les coups de fil, en se promenant un peu donc dans le département, on a pu constater que les électeurs se sont plutôt bien mobilisés pour cette consultation locale, très mobilisés même dans des communes particulièrement concernées par le transfert de l'aéroport, la commune de Saint-Aignan-de-Grandlieu, située, on va dire, en bout de piste de l'actuel aéroport de Nantes-Atlantique, et celle aussi de Notre-Dame-des-Landes, où serait transféré l'aéroport. Il y a une heure, 70% des électeurs, des 1500 électeurs de Notre-Dame-des-Landes s'étaient déplacés aux urnes. À 17h, à Saint-Nazaire, le taux de participation était de 37%. Et vous l'avez dit, mais c'était à 17h. Là, le taux était à peu près le même à Nantes. Beaucoup de votes aussi par procuration. Il faut dire que dans les deux camps, les partisans du transfert d'un côté, les opposants à Notre-Dame-des-Landes de l'autre, dans les deux camps, on incitait à aller voter pour espérer un oui ou un non massif qui, en gros, clouerait le bec au camp adverse. Les électeurs, eux, bien que plutôt sceptiques sur un déblocage rapide de la situation de ce dossier Notre-Dame-des-Landes, se disent plutôt très contents d'être consultés, contents de s'exprimer sur ce projet. Ce projet, on le sait, vieux de 50 ans. Tout en se faisant donc aucune illusion, sur aussi la possibilité par le gouvernement de débloquer la situation. D'abord, l'avis n'est que consultatif, on verra bien, et puis déloger les zadistes, quel que soit le résultat de cette consultation non contraignante, et malgré aussi la volonté affichée du gouvernement sur ce point, déloger les zadistes s'annonce périlleux. Le gouvernement, dont le seul membre à voter aujourd'hui, était le ministre des Affaires étrangères et ex-maire de Nantes, Jean-Marc Ayrault. On l'écoute.
Je ne veux pas m'exprimer sur le fond, juste pour me féliciter de cette consultation décidée par le président de la République. Et finalement, je constate que malgré les critiques, la meilleure réponse est la participation. Donc c'est un signe important que lorsque on demande l'avis des citoyens, ils le donnent. Et on verra ce soir.
Voilà, résultat de cette consultation sur Notre-Dame-des-Landes, avant 22h, voire plus.
Merci Véronique Robérot, en direct de Nantes avec les moyens techniques de Benjamin Thuot. 36,5 millions d'électeurs espagnols votent aussi depuis ce matin de nouvelles élections législatives après 6 mois de blocage politique. Suite au scrutin de décembre dernier, aucune coalition gouvernementale n'avait pu être formée. Les partis historiques avaient été déstabilisés par l'émergence de nouvelles formations, Ciudadanos et Podemos, et cela pourrait à nouveau être le cas aujourd'hui. Bonsoir Annabelle Grelier, vous êtes en direct de Madrid. Nous connaîtrons les premiers résultats vers 22h30. Mais pour l'instant, il semble que Podemos tire son épingle du jeu.
Oui, les derniers sondages prédisent quand même la victoire au Parti populaire, le PP, du chef du gouvernement sortant, Mariano Rajoy. Mais ce soir encore, son score devrait être trop faible pour atteindre la majorité absolue qui lui permettrait de gouverner seul. Tous les regards se tournent maintenant vers Podemos, ou plutôt la coalition Unidos Podemos, formée par Podemos et Izquierda Unida, héritière du Parti communiste. Depuis plusieurs semaines, Unidos Podemos est donné deuxième et les militants espèrent le sorpasso, l'éclipse, c'est-à-dire dépasser le vieux parti socialiste, le PSOE, arrivé second en décembre dernier, mais avec le plus faible score de son histoire. Paradoxalement, le PSOE, en crise d'identité et en perte de vitesse, gardera la clé du scrutin, car sauf grosse surprise, pour former un gouvernement, chaque parti, quel qu'il soit, devra trouver des alliances. Le chef de Podemos, Pablo Iglesias, dit vouloir gouverner avec le PSOE pour mettre fin à l'austérité et relancer les dépenses publiques, mais l'inimitié entre les deux formations est telle que leur alliance paraît improbable. Beaucoup craignent un nouveau blocage après le scrutin, un scrutin dont on connaîtra les premiers résultats vers 22h30, en effet, Fanny.
Annabelle Grelier, en direct de Madrid pour France Culture. Les combattants du groupe État islamique perdent du terrain en Irak, Fallujah. À Fallujah, les forces militaires irakiennes ont libéré la ville. Le dernier quartier aux mains des djihadistes est donc tombé. Il tenait la ville depuis janvier 2014. L'offensive contre Daesh a été lancée il y a un mois. Elle va à présent se poursuivre sur Mossoul, plus au nord. Le ton monte entre le pape et la Turquie. Le pape François boucle son voyage en Arménie ce soir. Un voyage durant lequel il a ouvert dénoncer le génocide arménien. Des propos fâcheux, proches de la mentalité des croisades, a réagi un membre du gouvernement turc. Le Vatican a donc dû mettre les points sur les i. Mathilde Imberti suit le voyage papal pour France Culture.
Les propos du pape sur le génocide arménien relèvent de la mentalité des croisés, selon le vice-premier ministre turc. Le Vatican a dû réagir rapidement. Interrogé par les journalistes qui suivent le voyage du pape, le père Lombardi, directeur de la salle de presse du Saint-Siège.
Si l'on écoute le pape, il n'y a rien dans ses propos qui évoque un esprit de croisade. C'est un esprit de dialogue, de paix. Sa volonté est de construire des ponts au lieu de murs.
And not walls. He has also prayed and
Il a prié pour la réconciliation de tous, y compris entre le peuple turc et le peuple arménien. Il n'y a aucun esprit de croisade.
Le pape ne modifie pas sa dernière étape en Arménie face au mont Ararat, sur lequel, selon la Bible, l'arche de Noé s'est posée. Une étape d'autant plus symbolique maintenant, avec ses deux colombes, symbole de la paix, lancées en direction de la Turquie.
Mathilde Imbertière à Erevan pour France Culture. Bonsoir Philippe Frémaux, vous êtes éditorialiste pour le magazine Alternatives économiques.
Bonsoir.
C'est l'heure de la chronique économique sur France Culture. Alors pendant de longues semaines, la campagne du référendum britannique pour ou contre le Brexit a mobilisé de nombreux arguments économiques. Alors que peut-on dire des conséquences probables pour les Britanniques, mais aussi pour le reste de l'Europe ?
Au-delà du comportement des marchés financiers, hein, qui se réagissent toujours face à tout facteur d'incertitude, il est probable que les conséquences économiques vont demeurer limitées à court terme. Nul n'a intérêt, de part et d'autre du Channel, à déstabiliser l'économie européenne, donc les règles actuelles vont s'appliquer le temps que les négociations soient menées à bien et que le cadre de nos relations futures soit défini, ce qui va prendre nécessairement du temps, indépendamment d'ailleurs des deux ans fixés par l'article 50 du traité de Lisbonne. Bon, mais l'essentiel n'est pas là, hein. Il faut bien comprendre que les Britanniques ne sont pas partie prenante à l'euro. Ils disposent déjà d'une très large autonomie en matière économique. Ils mènent leur politique monétaire et budgétaire à leur guise. Ainsi, le gouvernement britannique a conduit une politique monétaire très dynamique depuis la crise de 2008. Il a également laissé filer son déficit budgétaire, d'ailleurs bien au-delà de la limite des 3% afin de soutenir l'activité. Ils ont une dette publique qui dépasse désormais largement les 90% du PIB. Donc, ils ont vraiment une vraie marge de manœuvre de politique économique.
Donc, pas de rupture majeure à court terme pour les Britanniques. Et pour les 27 ?
Alors, l'Union européenne à 27 est un partenaire majeur pour le Royaume-Uni, mais la réciproque n'est pas vraie. Hein. Le Royaume-Uni est un partenaire commercial important, certes, pour la France aussi, mais c'est aussi le cas des États-Unis ou de la Chine, et le principal moteur de l'activité au sein de l'Union, ça demeure quand même la dynamique de la demande interne.
Alors, à plus long terme, ça veut dire quoi pour l'Europe ?
Alors, à plus long terme, tout va dépendre des règles qui seront négociées, qui rendront plus ou moins attractif le territoire britannique pour les investisseurs par rapport au reste de l'Europe. Mais si on veut comprendre le véritable enjeu du Brexit, ça suppose évidemment de sortir de la logique du qui gagne, qui perd. Une logique qui, au fond, nourrit le mal qui ronge l'Union européenne et dont le Brexit n'est qu'un symptôme. De fait, le rapport des différents États membres à l'Union est devenu toujours plus utilitariste et court-termiste, très loin, au fond, de la vision historique que portaient les pères fondateurs de l'Europe. Le débat britannique s'est ainsi focalisé. Et de ce point de vue-là, David Cameron porte une lourde responsabilité face à l'histoire sur le rapport coût-bénéfice tiré par le Royaume-Uni de son appartenance à l'Union. Or, la vraie question, au fond, sur le plan économique, mais aussi social, environnemental et politique, au sens le plus fort de ce mot, c'est pas ce que ça nous coûte ou pas d'appartenir à l'Union, mais c'est de savoir s'il existe une alternative pour les vieilles nations européennes au fait d'unir nos destins pour lutter contre le dérèglement climatique, pour réguler la mondialisation ou pour gérer les crises à nos frontières.
Oui, enfin, reste que la tentation du repli est bien partagée, y compris en France.
Oui, absolument. Et s'il y a des reproches à faire, ils doivent tout autant être adressés aujourd'hui aux dirigeants allemands et français qui sont incapables de fixer un cap et de construire une vision de l'Union qui fasse envie. Donc, on est tiraillé d'une part entre un fédéralisme ordo-libéral allemand, la solidarité limitée, on l'a bien vu depuis la crise, et puis la défense française obstinée d'une logique intergouvernementale au ton d'une conception nostalgique et étriquée de notre souveraineté. Donc on a une Union européenne donc, qui ne sait pas où elle va et qui ne répond pas aux attentes de ses citoyens. L'Allemagne doit accepter plus de solidarité, la France sans doute plus de fédéralisme, mais il faudrait pour cela, notamment ici, hein, que l'ensemble de nos élites acceptent de faire leur deuil d'une Europe vue comme le moyen de démultiplier la puissance de notre grand pays, que toute une partie de la gauche renonce aux rêves révolutionnaires dans un seul pays, et que la droite, plutôt que de courir après le Front National, accepte les compromis institutionnels qui permettraient d'exiger en contrepartie une solidarité organique plus forte de la part de l'Allemagne. À entendre les premières réactions des uns et des autres ces trois derniers jours, nous en sommes loin et ça rend triste.
Merci Philippe Frémaux pour cette chronique éco. La météo, pour terminer ce journal avec presque pour toute la France, une soirée entre nuages et éclaircies. Des orages sont toutefois attendus en Lorraine et en Champagne-Ardenne. Et pour ce qui est des températures, on va de 15 à Amiens jusqu'à 23 à Marseille. Demain, des pluies dans le nord-ouest, mais du soleil sur le reste du territoire.